Bon, bah, écoutez, bonjour. Après, j'ai vu pas mal de monde sur scène. On est quand même un peu moins nombreux, on est que trois. Mais on va essayer quand même de vous passionner hein, avec nos histoires. Enfin. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir monsieur Karl Norak. Romancier, poète. Et tu peux rajouter autrement beaucoup de livres jeunesse et beaucoup de poésie et des choses comme ça. Stéphane Poulain, illustrateur de livres pour jeunesse. Et tous les deux viennent de commettre, il y a quelques mois, une bande quelque chose sorti sous la forme de bande dessinée qui s'appelle Au pays de la mémoire blanche. Et ils vont tenter de nous expliquer quel était leur projet. Quoi. Alors donc, Karl, d'où vient l'idée de ce projet? C'est toi qui as commencé ou c'est lui qui a commencé par te titiller avec des dessins ou des choses comme ça? Non,
ça a commencé par un coup de foudre d'amitié il y a une quinzaine d'années à Montréal où j'étais parti pour faire, où j'avais reçu une bourse pour écrire un livre de poésie que je n'arrivais pas à terminer. D'ailleurs, il s'appelle Éloge de la patience. Je ne sais pas si c'est la patience de ceux qui ont essayé de le lire ou la patience de l'éditeur à le publier. Et alors, j'ai voulu m'intéresser aux illustrateurs du Québec et je me suis intéressé à celui qui est le plus célèbre, d'ailleurs, dans son pays, qui est Stéphane. Et alors, on s'est rencontrés, il y a eu une complicité immédiate qui ensuite est devenue, à l'École des loisirs, un livre pour enfants sur l'Île-Dieu, qui n'est pas bien loin d'ici, d'ailleurs. Et ensuite... Un jour, il m'a parlé d'un personnage qui le hantait, qui était inspiré par le philosophe Rousseau, mais un Rousseau à tête de chat et couvert de bandelettes, donc assez particulier. Et ce personnage, il a voulu qu'il m'obsède aussi, alors il en a fait un portrait. Ensuite, il en a fait une sculpture pour me dire de le mettre sur mon bureau afin que je ne puisse lui échapper. Et il avait un peu le point de départ d'une histoire d'une guerre entre chien et chat. Et il avait le point d'arrivée, c'est que l'identité qu'on donne à cet homme sans mémoire n'est pas la bonne. Et donc, il va, au fur et à mesure d'une histoire, se révéler être autre que lui-même ou finalement être lui-même. Et comme sa mémoire est blanche et qu'il survit à une explosion, à partir de cette blancheur-là, tout devenait possible. Moi, j'adore le mot « candeur », qui est un mot... Il y a des mots comme ça qui ne sont pas à la mode. La candeur, ça vient étymologiquement du mot « blanc ». Et aujourd'hui, le candide, il est assimilé à un naïf, alors qu'autrefois, le candide, c'était un révolté. Donc nous, on a voulu essayer de retrouver dans cette mémoire explosée une forme de candeur, mais une candeur qui soit plus proche de l'anarchie que de celui qui s'agenouille.
Et donc, toi, Stéphane, ce personnage, comment il t'est venu? Parce que c'est toi quand même qui as l'initiative, finalement, de l'histoire, parce que c'est toi qui as imaginé ce personnage, comme dit Karl, qui est un candide. Alors, à notre époque, des fois, un candide, si on se réfère à Voltaire, c'est quelque chose d'intéressant, mais souvent, c'est quelqu'un qui passe des fois pour un imbécile, quoi. Celui qui est un peu interrogatif, qui regarde les choses, qui s'étonne, il sait pas, donc il essaye d'apprendre, et celui qui sait pas... Tout à l'heure, on en parlait, dans notre société, il est un peu considéré comme quelqu'un un peu d'idiot, quoi, parce qu'on doit tout savoir. Quoi. Alors que ton personnage, quand même, qui a sa mémoire blanche, et ça se retrouve dans l'album, parce que les deux premières pages sont en blanc, et après, on passe sur des fonds noirs. Et comment t'es venue cette idée de ce personnage de Candide, et de lui faire dire des choses que tu avais envie de dire un peu sur la société, d'une certaine manière, quoi.
Ça part principalement de cette phrase de Rousseau que Karl a dit un peu plus tôt, l'homme est profondément bon, c'est la société qui le corrompt. Et j'ai toujours beaucoup aimé l'idée avec tout ce que ça peut impliquer. Et je m'étais dit, comment pourrait-on mettre en scène un personnage qui soit profondément bon et qui soit rendu à l'âge adulte, sans qu'il ait été contaminé par la société? Contaminé, c'est très large comme terme, mais influencé, contaminé par la société. Alors je me suis dit, on préfère donc un personnage qui n'a pas de mémoire et qui ne porte pas en lui... tous les jugements, les stéréotypes, les caractères de l'humanité. Alors, il n'aura pas de mémoire, mais pour qu'il n'ait pas de mémoire, c'est impossible que ce type-là ait vécu toute sa vie sans mémoire. Alors, je me suis dit, c'est suite à un accident, donc, qu'il n'a pas de mémoire, qu'il est vierge, finalement. Et c'est arrivé, finalement, pour cet accident-là, ça va être quoi? Je me suis dit, ça serait donc intéressant de faire intervenir un choc, une agression, finalement. Et ça a été l'explosion d'une bombe dans un autobus. Ce qui est intéressant de mettre, la raison pour laquelle je voulais mettre en scène un personnage qui est cette complexion, finalement, comme on disait au 16e siècle, la complexion d'un être, c'était sa dimension psychologique, sa dimension d'âme. J'ai pensé à Karl parce que Karl, j'avais déjà lu les textes de Karl parce qu'on était déjà copains depuis un bout de temps. On, pas copains, on est frères. C'est vraiment, pour moi, c'est un frère, Karl. Et il y avait cette dimension-là dans la poésie de Karl qui m'atteignait toujours, où Karl réussit à mettre, c'est peu de le dire, mais réussit à mettre en mots ce qui, moi, m'habite, et il le fait avec tout ce qu'il est. Ça me rejoint tout le temps, et je me suis dit, ça serait bien d'unir nos deux compassions pour donner cette force-là au personnage. Ensuite, il y a, pour terminer avec les personnages et les influences, il y a un film que j'ai beaucoup toujours aimé, c'était The Elephant Man, le type d'un personnage qui a comme ça la fameuse cagoule. Et c'est pas mal ça, et c'est tout.
C'est bien. Bon, par contre, quand vous avez imaginé cette histoire, vous avez nommé personne. Alors, il y a, sur un plan de narration, comment dire, qu'est-ce qui a guidé votre choix pour en faire des personnages animaliers ? Utiliser le chat, le chien, est-ce que c'est une référence à d'autres BD ? Pourquoi ces personnages animaliers et pas forcément des personnages humains ?
Est-ce que tu avais eu l'idée, toi, de faire avec des personnages animaliers ? Non, ça vient de moi.
Non, tu avais l'idée d'une guerre entre les chiens et les chats au départ. Alors, c'est vrai qu'après, on a construit la fable, puisque dès qu'on parle d'animaux humains, forcément, il y a une référence à la fable. Mais la fable n'est que dans l'animal. Au-delà de ça, moi, j'ai pensé plus à un mouvement qui est plus proche du fantastique, d'ailleurs, que de la science-fiction, et qui, en Belgique, s'appelait le réalisme magique, avec des écrivains comme Frans Helens. Après, il y a eu Jean Rey, Thomas Owen, etc., qui sont des personnages qui essaient de vous faire... Ils vous envoient dans une réalité décalée, mais ils essaient à tout prix de vous faire croire qu'elle est vraie. Et ensuite, une fois que vous croyez un petit peu à la véracité de l'univers qui vous est présenté, d'y glisser des failles d'irréalité progressive, un petit peu en quelque sorte pour troubler le regard. Alors, ce qui est un petit peu original dans ce livre et qui fait qu'il est un petit peu un ovni, c'est qu'on a décidé on l'a fait en fait en tout sur 7 ans. Donc les deux premières années, on a discuté par mail, moi de Belgique à Montréal, un petit peu autour du personnage. Et ensuite, il a décidé qu'il allait consacrer 5 ans de sa vie à la réalisation, donc environ 2 ans et demi, 3 ans pour les croquis, et après une semaine pour faire chaque page des 150 pages de bande dessinée à l'huile sur toile que vous voyez, dont vous voyez des exemples. Et alors, on a voulu que ce livre, il soit un peu comme la mémoire du personnage, c'est-à-dire qu'il ne soit pas construit sur une ligne linéaire, mais plutôt sur un éclatement. Et pour parvenir à cet éclatement, la meilleure raison, c'était d'aller un peu à l'inconnu et d'essayer de suivre les errances du personnage en errant quelque peu nous-mêmes. Et c'est pour ça que chacun ne pouvait continuer que quand il avait la clé de l'autre, le dessin suivant ou la page suivante, ce qui est une chose évidemment qui ralentit. Mais comme on n'avait pas d'éditeur, puisqu'on a voulu le faire sans éditeur, en se disant peut-être qu'un éditeur en voudra par la suite, et heureusement, grâce à Sarbacane, ce livre existe, sinon c'était vraiment un investissement assez étrange. Mais pour nous, au départ, on avait envie de le faire, et le faire à un rythme qui est un petit peu étrange par rapport à nos propres vies et à la vie d'un écrivain ou d'un illustrateur habituellement.
Ouais, cet album qui semble quand même un peu dans sa forme, dans sa construction, c'est un ovni même. Donc c'est une bande dessinée parce qu'il y a des images, il y a un texte qui s'y rattache. Mais presque on est dans l'histoire où il y a le texte et l'image qui ne sont pas fondus, il n'y a pas de bulles. Les textes sont légèrement à côté sur des pages ou en dessous. Il y a des fois des pages où il n'y a pas de dessin, il n'y a que du texte. Alors il y a quand même quelque chose qui m'a interrogé dessus, ce quand tu lis. Pourquoi avoir choisi un fond noir sur l'édition et ces textes en blanc ? Alors que bon, les deux premières pages, on a un texte en noir sur fond blanc, et après tout le reste de l'histoire, et on a les textes en blanc sur fond noir, les images arrivent avec un petit cadre blanc pour les isoler. Pourquoi avoir choisi cette forme et ce fond et cette manière d'éditer le bouquin ?
Ça part tout simplement du texte de Karl, c'est la position de Karl dans le récit, et c'est que Karl est le personnage, il est la pensée du personnage, ses mots sont la pensée du personnage.
Ce que je voulais. L'image qui passe derrière. Hein,
oui. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est juste pour montrer, la première est blanche.
Ouais, la première page est blanche.
Il y a un basculement sur le noir.
Et ensuite, on tombe dans le noir pour le restant du livre. C'est que, donc, Karl incarne la pensée. Il est le personnage physique de la pensée dans le texte. Il est dans la tête de Rousseau. Tandis que moi, j'en ai je suis le personnage, je suis le Rousseau physique, moi, dans l'histoire. Alors, Karl est la tête et moi, je suis le corps dans notre Rousseau. Et ce que je me disais, c'est que je voulais laisser autant d'espace au texte de Karl. J'ai dit à Karl, je rêverais d'un livre où tes mots l'imagerie de tes mots puisse prendre leur pleine ampleur. Donc, pour ça, je ne voulais pas que ce soit un rapport texte-image régulier. Je voulais que quelquefois le texte de Carl soit seul et à certaines occasions, que certaines phrases de Carl soient pleine page sur fond noir. Il me restait à régler le problème d'avoir un texte typographié noir sur blanc. Je me disais, on donne à ce moment-là une existence physique aux mots de Carl. Et je voulais que ces mots restent dans l'imaginaire, restent dans la pensée. Alors, je me suis dit, tiens, c'est une bonne idée, je vais faire une absence de mots. Ils vont être blancs. Et pour qu'ils restent blancs, ben, le livre va devenir noir. Alors, ces mots sont un peu, finalement, des lumières d'étoiles pour moi. Et c'est bien aussi parce que c'est dans la tête de notre Rousseau, c'est noir. Quand on regarde le visage de Rousseau aussi, sous les bandelages, c'est noir. Alors, c'est ce qui émerge de ce masque, c'est la pensée de notre personnage.
Donc, voilà l'explication pour la narration. Donc, comme tu le disais tout à l'heure, l'histoire de l'album de Au pays de la mémoire blanche, c'est l'histoire de ce personnage qui, victime d'un attentat, enfin, il sort d'un attentat avec la mémoire, comment dire, blanche, il ne sait plus rien. Et on va le suivre dans sa, comment dire, reconquête, redécouverte du monde, sa reconstruction, sa recherche. Et à un moment, il va se mettre à penser, il va trouver le monde un peu bizarre. Lui, il est toujours entouré de bandelettes. Et il se regarde dans un miroir, mais on ne sait, jusqu'à la fin, on ne sait pas qui il est, ce personnage. Quel est ce personnage, d'où il vient, quelle est son histoire avant, on ne la connaît pas. Il va aller rechercher son père. Il y a plein de choses qui se passent. Et comment dire, et il y a, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé dedans. C'est cette présence et ce regard, et quand il arrive face à un miroir, il a toujours des interrogations, il y a quelque chose de très très important là-dedans qui, moi, m'a beaucoup frappé, et ce rapport avec le miroir, le miroir change, quel qu'il soit, et à la fin, quand il se découvre, en plus, le miroir est cassé. Donc, qu'est-ce que vous avez voulu montrer dans ce problème, dans ce rapport au miroir, dans ce rapport à son image, finalement?
Oui, alors, c'est vrai que, comme lui, il a travaillé 5 ans, mais moi, j'étais là avec une petite dose de mots. Je me suis dit, je dois essayer, puisqu'il m'a dit, sur chaque image à l'huile, je vais faire 6 couches. Alors, moi, je me dis, l'écrivain, je dois essayer au moins de tenter de mettre quelques strates différentes. Et donc, forcément, il y a lui, son propre double, et on est presque dans une chambre au miroir, on aurait un double à l'infini de lui-même, qui est toujours aussi énigmatique. Alors, c'est vrai que des gens m'ont dit que le texte pouvait paraître parfois énigmatique, mais j'ai essayé de... Comme je n'avais pas le poids de l'éditeur, je l'ai traité en poète plus qu'en romancier. Donc ça, c'est une première chose. Et après, comme lui, il m'a parlé d'Elephant Man, d'Edouard Hopper, de la peinture flamande. Alors moi, je me suis dit, je vais apporter mon propre système de référence, ma fascination enfant pour la mythologie grecque qui se retrouve dans une sorte de passage de l'Achéron. Il y a évidemment la mythologie celtique avec une présence de licorne. Il y a mon amour pour les noms japonais, dont il y a deux noms qui sont très clairement évoqués quelque part. Aussi même mon amour de certains poètes, comme René Char, qui disait qu'il ne faut pas venir au monde pour ne rien troubler, sinon on ne méritera ni égard ni patience. Et donc ce personnage, il est un peu nanti finalement de beaucoup de références, sauf qu'il est un silence vivant. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a pas mal d'images qui sont après une bande dessinée muette. C'est comme s'il y avait un questionnement incessant, comme s'il y avait une machine à deux musiques et qu'une des deux était le silence. Et donc nous, on a conçu ça. Alors, ce qui peut être étrange, c'est qu'aujourd'hui dans l'album pour la jeunesse, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'un livre ne soit pas redondant et donc quelque part l'illustrateur aille presque jusqu'à trahir l'auteur. C'est-à-dire à ne pas reproduire l'univers qui est dans les mots, mais aller l'emmener ailleurs. Et moi, souvent, quand je fais un livre pour la jeunesse, je dis à l'illustrateur, je te donne mon texte. Donc, je ne veux pas voir la suite. Et nous, au fond, avec notre propre personnalité assez différente, même toute notre complicité, on a travaillé sur deux personnages différents, parce que son Rousseau et mon Rousseau ne sont pas exactement le même dans le texte et dans l'image. Et le livre, c'est la rencontre dans un point un petit peu secret de l'espace, mais pas trop secret, je l'espère, de deux personnages qui sont un et multiples. D'où un peu cette idée de miroir, qui est évidemment une idée qu'on retrouve aussi bien dans Jean Cocteau que dans les traditions ésotériques du siècle des Lumières, où on demandait aux gens d'affronter leur juge. Et alors, ils demandaient, mais quel est mon juge? Et après, on leur présentait un miroir, celui qui vous regardera dans les yeux et qui ne s'ira pas. Celui à qui vous verrez si vous êtes digne de vous et si vous a trahi. Et alors, on se disait, mais quel est ce juge qui va m'apparaître ? C'était simplement votre visage dans le miroir que vous deviez un jour affronter. Et là, notre personnage, il se regarde d'abord dans une flaque d'eau parce qu'il est extrêmement flou. Hein, à la fin, évidemment, il affronte sur un miroir cassé d'un cirque détruit, hein, donc avec toute la dérision que ça peut représenter, il affronte quand même une part de la réalité de ce qu'il est derrière les bandelettes, sachant qu'on a tous des bandelettes et qu'on a tous envie de les retirer quelque part, même si elles ne sont pas visibles.
Juste pour compléter ce que Carl disait, on n'a pas la même vision de Rousseau. Moi, ce que je voulais faire tout au long de l'histoire, c'est, bien entendu, si j'avais des bandelettes, j'étais un type qui perdait la mémoire, je serais tenté d'aller voir de quoi j'ai l'air en dessous. Et je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait me motiver à faire en sorte que mon personnage, à la troisième page, n'enlève pas ses fameuses bandelettes et se regarde? Carl, lui, ce qu'il a fait pour ça, c'est qu'il a créé une quête. Notre personnage ne cherche pas nécessairement à voir son visage, il cherche à percer son identité. Alors, Carl a fait une quête identitaire de l'être. Et moi, comme mon travail est physique, j'étais la partie physique de l'être, je me suis dit tout au long, je vais transférer la curiosité ou la crainte de Rousseau en ce qu'on peut éprouver un peu en dedans nous. Nous tous, on a ce désir-là de connaître qui on est. On a des bandelettes et on est très curieux aussi. Et on est incapable de les enlever, nos bandelettes, parce que tout simplement, je crois, beaucoup par rapport à la religion, beaucoup par rapport à notre éducation, à probablement la croyance très crue en dedans de nous, inculquée qu'il y a un Dieu et que ce Dieu, on est à son image. On a tellement peur d'être déçu et de ne pas être à la hauteur de ce Dieu et donc de ne pas être accueilli dans appelez ça comme vous voulez, le paradis, le cosmos, l'humanité. On a tellement peur de ne pas être à la hauteur qu'on va vers l'avant et on cherche dans des miroirs et jamais on enlève les bandelettes. Et dans le cas de Rousseau, ce qui était bien, c'était finalement la fin. Lorsqu'il se rend compte qu'il doit être confronté à qui il est, il va les enlever, ses bandelettes. Et ce qu'il va découvrir, c'est tout ce potentiel d'humanité qu'on a à être triste, à être violent, à être accueillant.
La quête de ce personnage va passer donc de retrouver la mémoire, mais passer aussi par la recherche de son père, la confrontation à ce monde vivant. Et puis, pour vraiment redevenir lui-même et voir qui il est, il va se sentir investi d'une mission. Donc on va avoir un peu une notion de super-héros qui va essayer de changer le monde, mais sans violence, tout à fait sans violence. Chose qui va... Et il y a aussi ce passage d'un mur qui existe, qui est une espèce de mur vivant. Là, il y a beaucoup de symboles dedans sur lesquels vous avez travaillé, qui je pense que font partie de vous et des messages que vous avez envie de faire penser, en plus de celui de Rousseau.
Oui, alors c'est vrai qu'on a inventé une ville pour montrer le côté totalitaire. En fait, c'est une ville où les murs poussent seuls. Donc, c'est comme si la ville était tellement totalitaire et tellement malade. C'est un sujet qu'on trouve beaucoup dans le fantastique belge, d'ailleurs. Les villes malades, les maisons malades. Et donc, il y a ce mur qui pousse de lui-même et qui sépare les gens. On a été très contents, d'ailleurs, parce que le livre, par hasard d'édition, est paru d'abord en Allemagne, à Berlin. Ils se sont sentis très, très concernés. Alors que moi, curieusement, j'avais pensé plus à Nicosie parce que j'avais été à une période où il y avait ce mur qui traçait la capitale entre chypriotes et turcs, où vous butiez contre un mur avec un casque bleu au-dessus, en tournant dans une rue, en fait. Vous pouviez être séparé de votre voisin, de tout un monde et de toute une politique. Alors nous, on s'est beaucoup interrogé sur notre personnage qui est ni anti-héros ni super-héros, mais qui est porteur d'une quête. Alors ça, c'est un petit peu foireux et c'est un petit peu ringard. Et c'est peut-être... Mais à quelque part, ça a atteint un tel point de candeur aussi. Mais, parce que vous savez qu'en littérature, les choses se retournent. Et de faire un héros violent, alors il y en a qui sont un peu sidérés, parce qu'ils se disent, vous y croyez encore, un héros non violent. Moi, en même temps, c'est ça qui a suscité Amnesty International, notamment de coéditer ce livre. Alors moi, j'avais même des problèmes avec notre propre quête, parce que je me disais, moi, à sa place, même avec mes bandelettes, il y a un moment donné, je foncerais dans le tas. Et alors, à un moment, j'ai eu la tentation, puisqu'on faisait page par page, tout d'un coup, je l'ai fait réagir. Et c'est le seul moment où on ne s'est pas disputé, mais il m'a dit, Là, il faut que je te regarde, parce que là, on n'est plus sur le même du tout, le même personnage. Il m'a dit, être blanc, ne plus avoir rien, c'est être peut-être nanti d'un pouvoir. Et alors, nous, on va dire, mais non, c'est un personnage qui est démuni, il est livré à son propre silence. Nous, on a dit, non, c'est un pouvoir, c'est que on n'a pas les barrières que le passé et même le présent ou les rêves d'avenir peuvent vous enfreindre. Ils peuvent vous grandir et vous faire construire, mais aussi parfois dans la vie vous enfreindre. Et lui, à partir de là, il y a des pouvoirs qu'on a commencé évidemment à définir comme une forme de magie. Alors, est-ce qu'il a une mission un peu messianique? Non, il a juste le pouvoir de traverser les murs et de montrer aux autres qu'un mur, même si on ne peut pas l'abattre, peut au moins être traversé si on veut fuir.
Il y a deux choses dans le personnage de Karl par rapport à la violence. Moi, je m'intéresse beaucoup à la violence parce que, bon, il y en a autour de moi aussi. Et puis, c'est ce qu'on voit le plus. Et je me dis, ben, c'est peut-être pas normal qu'on la voit autant. Il y a peut-être autre chose à voir. Ce qui me fascine dans la violence, très souvent, et on dit d'un personnage non violent, mais ça se peut pas si t'es non violent, tu passeras pas au travers. Pour moi, la logique est assez simple. C'est que si une personne est violente et t'agresse ou t'agresse verbalement ou physiquement, tu l'as subi, sa violence. Donc, la violence que les autres nous envoient, c'est la violence qu'on leur envoie. On réagit à la violence parce qu'on la reçoit. Et j'en suis convaincu. Et partant de là, moi, je me dis, si on est un être non violent, j'aimais beaucoup Gandhi, j'aime profondément Gandhi, pour le message d'espoir qu'il nous envoie, je me dis, si j'ai pas cette violence-là, cette agression en face des gens qui sont en face de moi, ils la sentiront pas, ils se sentiront pas piégés, ils ne me la renverront pas. L'autre, c'est moi. Je suis entouré de moi tout autour parce que je suis le résultat de toutes les rencontres que j'ai faites. Je suis un être qui a été formé au contact des autres humains. Pour moi, c'est tout à fait plausible et c'est tout à fait possible qu'on puisse faire son bout de chemin dans la vie en étant non violent, en étant dans l'amour. Je crois beaucoup à l'amour. Moi, c'est sûr qu'il y a de l'agression, mais l'agression ne s'annule pas. Elle fait partie de vous, elle fait partie de moi aussi. Ça fait partie de notre histoire, ça fait partie de notre être. On est des animaux aussi. Et je trouve que c'est intéressant d'aller de ce côté-là. Il y avait un petit détail intéressant par rapport à Rousseau. À un moment donné, Karl et moi, on travaille dessus, puis on se rend compte en rigolant comme ça. On dit, écoute, on a créé un super-héros, il a tout. Il a subi un accident énorme, et il a des bandages, il a le visage caché. Mais maintenant, comme tous les super-héros, suite à son accident, il faudrait qu'il en ressorte avec une force particulière. Et moi, j'avais dit à Karl, eh bien, sa force, c'est que c'est un être doué d'une compassion au-delà de la normale. Et Karl est arrivé pour qu'on puisse voir une manifestation de ce super pouvoir, pour qu'on puisse le voir. Karl s'est dit, notre héros passe à travers les murs. Et c'est très symbolique, pouvoir passer à travers les murs, c'est percer le cœur des hommes, c'est entrer en l'autre, c'est être en communion avec l'autre. Et il le fait passer à travers le mur.
Mais quand je vous entends parler tous les deux, là, disons, j'ai l'impression d'entendre la vision sur un certain sujet de deux mondes. La vieille Europe et l'Amérique du Nord, continent neuf. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut y ressembler, la vieille Europe avec sa culture, ses habitudes, ses guerres, ses traces, ses blessures, tout ce qui vient, ses murs et l'Amérique du Nord qui est un continent beaucoup plus vaste, où il y a de l'espace, où on peut entreprendre, où il y a une vision qui est peut-être un peu plus angélique des choses, ou peut-être le Canada. J'ai l'impression de voir ça dans votre rencontre à tous les deux.
Oui, souvent Stéphane se définit vraiment comme américain parce qu'il dit qu'il est d'un pays qui n'a pas l'histoire qu'on a ici. Et donc, c'est l'avantage d'ailleurs en art, ce sont des gens qui ont toujours réinventé. Hein. Les gens qui aiment la science-fiction le savent particulièrement. Et moi, c'est vrai que j'arrive avec toutes les références de la vieille Europe. Et dans ce livre, d'ailleurs, on a essayé de troubler les lieux. C'est-à-dire, est-ce qu'on est vraiment à Berlin? Non. On ne sait pas trop dans quelle ville on est. À un moment donné, puisque j'aime beaucoup les noms japonais, il va partir dans un endroit qui tout d'un coup devient asiatique, mais qui peut être, comme dans certaines grandes villes, le jardin chinois de la grande ville, ou alors un basculement finalement totalement géographique. Dans le temps aussi, on a quelques repères qui peuvent nous donner peut-être une idée des années 50 ou 60, mais ça peut très bien... Pour nous, ça pouvait très bien être un mur en Palestine, presque, même s'il y a quelque chose d'assez occidental. Mais alors, il faut aller au-delà de cela, parce que c'est pas parce qu'on est des vieux Européens qu'on n'a pas envie de casser le miroir, justement, et d'inventer une autre identité. Je pense d'ailleurs qu'on a intérêt à commencer à le faire, quelque part, tout en gardant nos propres richesses. Et de l'autre côté, la première rencontre qu'on a eue, qui était un flash amical au sens merveilleux du terme, Stéphane Poulain, qui était là dans sa maison à Montréal, la première chose qu'il m'a dit, il me dit « Ah, j'aime les Belges. Bon, » alors on a vu qu'on aimait la bière tous les deux, mais ça, c'est autre chose. Mais il m'a dit « Ah, la peinture flamande, je suis un fils de Bruegel. » Voilà. Donc moi, je suis un fils caché de Bruegel parce que je suis wallon, donc je suis un fils inavoué de Bruegel, le flamand. Mais vous avez un fils québécois de Bruegel. Donc c'est vrai qu'il faut aller aussi au-delà de ça. Il y a des liens qui se sont créés et qui sont tangibles. Parce que si, quand vous voyez, il y a un beffroi et un personnage comme ça, un peu christique, qui s'envole avec une tête de mouton à un moment donné, on est vraiment dans un tableau flamand. Donc moi qui me revendique belge, je dirais dans un tableau belge.
De mon côté à moi, par rapport à Karl, la vieille Europe et l'Amérique, c'est un cliché, mais c'est charmant. Hein. Je trouve pas ça péjoratif. Mais c'est sûr que nous, en Amérique du Nord, moi, je connais mes auteurs chez moi. On n'a pas une histoire qui est très, très longue, mais je connais mes auteurs chez moi. Et il n'y en a pas beaucoup. Alors, on a fait le tour, parce qu'il y a énormément de profondeur en tous, mais... Étant donné que, moi, il y a plein de choses qui font. Moi, je viens d'un milieu très, très modeste. Je n'ai pas la tête non plus. Je ne suis pas un intellectuel. Ce n'est pas ma force. J'étais très attiré par le bagage de Karl, qui, lui, est quelqu'un qui a une capacité d'assimilation et d'apprentissage qui sont pas dans mes capacités à moi. Je me suis dit, ben, j'aimerais m'y frotter. J'aimerais voir. Et je trouvais qu'il exprimait bien, Karl exprime... très bien toute cette connaissance qu'il a amassée. Et ce n'est pas un bagage juste pour montrer, qui montre à la visite quand on arrive. Ça fait profondément partie de lui. Et ce sont des connaissances et ce sont des richesses qu'il utilise et qu'il distribue. Et pour moi, ça va avec moi, ce que je suis. Moi, ce que j'ai développé comme qualité, c'est autre chose. Bon, je n'ai pas la tête de Karl. On a à peu près tous les deux les mêmes pieds, par exemple. Il a le même nombre que moi et tout. Ça ne nous sert pas à grand-chose, sinon à marcher, mais bon. c'était de partager, je pense, ces deux sensibilités-là qui se rejoignent à travers nos connaissances. Et ça se fait de façon évidente. Il aurait pu être du Canada aussi. Je ne pense pas que ce soit vraiment important.
Mais il y a toujours eu beaucoup de liens, d'ailleurs, entre les écrivains belges et du Québec. Déjà par la pratique de la langue française hors de France, donc quelque chose qui nous relie. Moi, j'avais créé avec un poète québécois, on a commencé le tunnel sous l'Atlantique, par exemple, donc on s'était donné rendez-vous à la même heure avec le décalage horaire. Je m'étais arrangé pour que ce soit lui qui soit en pleine nuit, et alors il est parti faire un trou. Et pendant un an, on a correspondu en se disant qu'il faisait bien noir et qu'on ne se voyait pas encore, parce qu'il y a du boulot, on n'a pas fini d'ailleurs. Et alors, ça peut paraître une plaisanterie, mais il y a quelque chose dans l'âme des Québécois qui est assez surréaliste. D'ailleurs, parmi tes influences, on peut dire que Magritte est quelqu'un qui t'a aussi marqué. Alors, la grande différence, c'est que la première fois que j'ai traversé le Québec, je me suis dit, tiens, il y a une pompe à essence comme dans les films américains, je vais aller mettre de l'essence, même si je ne dois pas en avoir besoin. Et le type m'a dit, si vous allez par là, heureusement que vous avez fait le plein, parce qu'il y a 100 km sans maison. En Belgique, quand vous faites 100 km, soit vous êtes au Luxembourg, en Hollande, en France, ou alors vous voguez vers l'Angleterre. Et donc, d'ailleurs, le grand éditeur Segers, parce que les grands éditeurs belges, ils sont devenus français. Par exemple, Actes Sud, c'est belge, mais on ne le sait pas. Hein, Hubert Nissen, est un belge. Et donc, Segers, il a dit que la Belgique était le pays où il y a le plus d'écrivains au kilomètre carré. Alors, disons, c'est vrai que ça grouille d'écrivains. Chez eux, il faut traverser quand même une forêt. Donc, on a des pays qui sont diamétralement opposés. Mais il y a quelque chose dans l'âme. Peut-être aussi parce qu'on a été des peuples qui ont toujours été opprimés par les autres, qui ont toujours plus ou moins appartenu aux autres. Et donc, on a un sens de l'autodérision qui nous fait beaucoup rire l'un l'autre et qui, à mon avis, passe aussi dans ce personnage qui est grandiloquent tout en n'y croyant pas vraiment, en fait. Donc, il y a les deux aspects. Il y a l'ambition et la dérision qui se ressentent sur une même personnalité.
Je suis tout à fait d'accord.
Tu es tout à fait d'accord. Maintenant, je vais te poser une question à toi plus précisément, Stéphane. Donc, quand on voit la BD, qu'on voit l'exposition, surtout quand on voit les planches, les dessins originaux que tu as faits, alors, qu'as-tu, pourquoi as-tu choisi cette forme?
J'en ai pas avec moi.
Non, mais il est vraiment le genre. Mais comme, pourquoi as-tu choisi cette forme? Bon, tu peux nous expliquer la technique que tu as employée. Moi, ce que j'ai trouvé absolument admirable dans tes dessins et même dans la reproduction et le travail de l'éditeur, c'est qu'on retrouve bien les couleurs, les ambiances, il y a des choix pertinents, il y a des choix d'intelligence. Alors, est-ce que la technique que tu as employée est importante par rapport à ça ou c'est simplement un plaisir ou...
OK. La technique, j'ai appris l'huile en autodidacte il y a plusieurs années. C'est par accident. On a eu un premier enfant, mon aimé et moi, à l'époque. Et puis, elle devait retourner aux études et l'enfant avait 2 mois. J'ai resté avec lui. Alors, je travaillais à l'époque à l'aquarelle et je devais interrompre de temps en temps mon travail parce que l'enfant se réveillait et puis... Alors, je lâchais tout. Et je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose qui fait que je puisse m'interrompre n'importe quand parce que mon travail, il va en souffrir. Et puis... Je voulais pas non plus avoir de réflexe d'impatience avec l'enfant. Je voulais pouvoir être bien, tranquille. Alors, c'est l'huile qui est arrivée. L'huile, ça sèche en 3 jours. Généralement, c'est très long. Ce qui est arrivé avec l'huile aussi d'extraordinaire, c'est que c'est un médium qui, séchant très lentement, on ne peut pas travailler instantanément comme on veut dessus parce qu'on détruit tout. Alors, avec le temps, c'est imposé le fait que je travaille extrêmement lentement maintenant. Et ce qui est arrivé en travaillant très, très lentement, j'ai développé ce plaisir de ne plus terminer les choses, mais d'être dedans. J'ai une réflexion, j'ai une définition bien personnelle de la patience. La patience, ce n'est pas des gens qui font un sacrifice ou qui font une abnégation de quoi que ce soit. La patience, c'est être convaincu qu'on est au bon endroit, au bon moment. On n'a pas besoin d'aller ailleurs. Il n'y a rien qui nous tire ailleurs. Alors, on peut y rester tant qu'on en est convaincu. Alors, mon travail, pour moi, c'est ça. C'est un métier que je pratique environ, je fais peut-être 6 heures par jour de travail. Je travaille 30 heures semaine. Ce n'est pas ce qui est le plus important pour moi. Mon travail me permet d'être libre. Et dans le moment où je dois travailler, bien, ça me permet d'exercer quelque chose qui fait sentir que je fais quelque chose de beau, qui m'apporte quelque chose qui me nourrit aussi. Alors, en travaillant en huile, ce que je fais, c'est que généralement, une page peut prendre environ 1 semaine, une page avec peut-être 4 petites cases. Et ce que je fais généralement, c'est que le livre, comme vous allez le voir là, si vous l'avez, il a été entièrement fait en noir et blanc au tout départ. La maquette est exactement la même, sauf que la pagination n'y était pas. Ça, c'est un ajout de l'éditeur. Il a été fait au crayonné de plomb entièrement, ce qui a pris 1 an et demi en tout. Et le crayonné était très travaillé à un point tel que quand on le présentait à l'éditeur, l'éditeur pensait que c'était le livre final. Il voulait le faire. C'est Carl qui lui a dit qu'il présentait le texte. Il leur a dit, attendez, non, ça, ce sont les esquisses, c'est la maquette. On va faire en couleur maintenant. Alors, ils m'ont donné 1 an et demi de plus pour pouvoir faire la couleur à l'huile, qui est un procédé très long. Et j'étais un peu déçu quand le livre a été accepté parce que je me suis dit, bon, ben, ça y est, on a une échéance et je vais être obligé de terminer. Et à chaque fois que je termine un livre, c'est un peu embêtant parce que je me dis, j'étais tellement bien. C'est comme être dans une baignoire, par exemple, vous voyez. Et puis, à un moment donné, il faut sortir parce que l'eau est froide, à moins de pisser dedans. Mais bon, on ne dit pas ça en public. Alors, ce livre-là, on me dit à un moment donné, il a accepté. J'étais heureux pour Carl et moi, mais je me suis dit, j'ai 1 an et demi et le travail est fini. Et ça a été la pire période du travail, qui était de travailler avec l'idée que je devais le finir. Mais j'aurais aimé, tant qu'à moi, que le livre puisse durer éternellement, que les sous rentrent par magie, que le bain se réchauffe tout seul, finalement. Et puis que je puisse baigner dans cet univers. Mais c'est pas grave, on va recommencer finalement. Juste un détail pour dire à propos du livre, Carl parlait de profondeur. Le texte était destiné à des enfants au départ. On s'était dit, Carl et moi, on vient du monde de l'enfance, on s'était dit qu'on ferait un livre pour enfants. Et il s'est avéré, à un moment donné, en mettant des couches, Carl en mettait de plus en plus, ça devenait extrêmement dense. Et on s'est dit, ça devient un livre pour adultes. Sauf que moi, mon personnage, je l'ai pensé pour enfants. Et il y a peut-être ça qui est intéressant pour les gens. Je pense que peut-être ça explique peut-être cet attrait pour le livre. C'est que c'est très accueillant. Il y a quelque chose de bon enfant peut-être dans le dessin un peu qui... je ne sais pas.
Je sais pas, non. Donc tu vas choisir. Alors, que vous choisissez la forme bande dessinée, parce que soit tu faisais des livres pour enfants, tu faisais des poèmes, toi tu faisais des illustrations. Donc, de trouver une narration qui utilise un peu la bande dessinée, parce qu'on est dans la séquence, un rapport texte-image et des séquences d'images, ouais. C'est volontaire, c'est quelque chose que vous avez conçu au départ comme ça. Ou alors, comme tu dis, ce livre, à mon avis, il a été vivant depuis le départ, était interactif, il a grandi tranquillement. Est-ce que ça s'est imposé?
Je vais donner une réponse courte, je vais te laisser parler après. J'ai un reproche généralement à faire, pas nécessairement juste aux éditeurs, mais un reproche à nous-mêmes en général, c'est qu'on a tendance à mettre des étiquettes sur tout et s'en tenir à ça. Toi, t'es comme ça, ben, je t'invite à souper parce que je sais qu'on va parler de tel truc, mais pour une autre occasion, je t'inviterai pas parce que tu, bon. Le livre, c'est un peu ça. J'en avais un petit peu, j'étais un peu tanné, j'en avais marre un peu qu'on me donne un livre et on me dise, t'as 13 pages pour le faire, t'as une image, t'as le texte qui va là. Et je disais à Carl, au lieu de constamment, dans mon cas moi, au lieu de constamment reprocher à des éditeurs de mettre des barrières, je vais voir s'il n'y a pas de limite, si je suis plus intelligent qu'eux, si je peux m'offrir cette liberté-là, et je vais arrêter de critiquer, je vais arrêter de chialer. Alors, je vais me donner un cadre pour vraiment essayer de faire un livre, un objet qui soit libre. Et le livre a pris toutes sortes de formes. Il y a du cinéma dans le livre, c'est du roman, c'est du livre illustré. La bande dessinée est arrivée parce qu'elle permettait d'exprimer certaines choses. Mais tout ce qui était choisi comme procédé dans le livre a été choisi pour servir le personnage, servir le texte. Je ne me trouve pas plus intelligent que les éditeurs maintenant, mais je sais une chose, c'est que c'est possible de le faire. Le monde dans lequel on vit, on ne fait pas que le subir, on le modèle aussi. On doit le faire, on doit être debout pour faire obstacle au vent et le vent contraire, et tandis que le vent naturel, lui, ben, il faut le suivre et puis c'est tout.
Et on voulait faire un livre qui soit en totale liberté, au risque même de jamais le voir publié. Alors on a eu la chance de trouver à Sarbacane, qui est un éditeur qui est connu pour son audace. Et donc d'ailleurs, les choses se sont faites en 5 minutes. J'ai raconté l'histoire, j'ai montré les toiles, puisque ce ne sont pas des papiers. Et puis on s'est embrassé avec l'éditeur. C'est bien d'embrasser son éditeur. Et puis le voyage était commencé. Nous, au départ, on n'a même pas parlé d'un genre littéraire. On a parlé d'un poème, il y aurait des images. Après, on a parlé d'un livre pour enfants. Et puis, on a parlé de bande dessinée, parce que, au fond, ce personnage, c'est comme une virgule blanche sur une grande page noire. Donc, on a envie d'y rajouter des silences. Alors, moi, j'ai l'habitude, parce que je suis déjà poète et écrivain pour la jeunesse. Donc, on me demande déjà, quand êtes-vous poète? Quand écrivez-vous pour les enfants? Quand écrivez-vous pour les adultes? Alors que je n'arrive pas à mettre des compartiments. Quand je suis poète, j'écris que des poèmes en prose. Alors on me dit, tiens, vous n'avez pas de rime, c'est quoi un poème en prose? J'avais un ami, Alain Bosquet, qui disait, le poème en vers, c'est la chasse à la licorne, et le poème en prose, c'est la chasse à l'homme. Ici, à l'homme et la licorne, d'ailleurs, quelque part, à travers les deux. Alors je suis obligé de dire, Baudelaire en faisait des poèmes en prose, demandez à Baudelaire, mais... Alors même dans un seul genre littéraire, on va vous dire, tiens, comment avez-vous franchi telle et telle frontière? Et alors, nous, quand on nous dit, est-ce que c'est une BD, un roman graphique, un poème, un récit, un roman, un conte, une fable, un livre illustré, ou un livre qui serait... Moi, je pense peut-être que ce sont des illustrations illustrées par des mots aussi. Alors là, ou alors il faudrait faire un beau grand meuble, et alors vous choisissez chacun le design vous-même, et vous mettez plein de tiroirs, mais pas un seul, quoi, voilà.
Ah, très bien, très beau, ouais. Donc, il y a quelque chose moi, qui m'interpelle depuis tout à l'heure, là, depuis ce matin, là, parce que j'ai fait parler avec David Loy. Là, quand je prends votre personnage central, le personnage avec ses bandelettes blanches, que je prends le masque de V pour Vendetta, je me dis, il y a quand même une similitude. Tu l'as lu, le masque de V pour Vendetta, lui, ce personnage qui, avec ses bandelettes, est à la recherche de son identité, qui il est, où il va aller, qu'il doit faire. Et alors, par contre, l'autre, il se met un masque pour se cacher. Mais tous les deux ont le même but, finalement. Ils veulent reconstruire un monde, ils veulent reconstruire quelque chose finalement. Et chacun emploie une forme différente, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, je pense que le masque de Rousseau aussi, si on peut le prendre comme ça aussi, on peut bien dire n'importe quoi, je vais avoir l'air plus intelligent comme ça. Rousseau, s'il a un masque, c'est le refus de prendre parti finalement, parce qu'il voit bien les chiens, et je pense que si c'est un être bon, c'est un être de compassion, au-delà de la violence, il perçoit la détresse. Alors, il peut être un chien, il accepterait d'être un chien. Il ne peut pas être un chat, il accepterait d'être un chat aussi, parce qu'il voit que ces gens-là la subissent, la violence. Et les gens qui subissent la violence ne sont pas nécessairement que des gens bons ou des gens victimes, c'est des gens qui sont porteurs de cette violence-là aussi. C'est juste qu'on ne leur donne pas le droit de l'exprimer et qu'ils ont un rapport de force qui est minoritaire. Alors, pour moi, Rousseau, c'est qu'il ne peut pas enlever son masque tant qu'il ne sera pas capable de choisir le camp. Et quel camp choisir? Et quand il va avoir choisi son camp, dans quelle mesure il va pouvoir aider les gens de son camp maintenant pour accepter l'autre? C'est ça, Rousseau, pour moi.
Alors, pour rebondir là-dessus, c'est vrai qu'il y a une semaine, j'étais à un autre salon du livre, celui de Beyrouth, et alors j'ai rencontré les premiers lecteurs, j'ai eu la chance de les rencontrer dans une ville qui avait vécu cette histoire-là. Et d'ailleurs, le libraire qui est très connu là à Beyrouth, parce qu'il est, c'est le seul qui restait ouvert sous les bombes, il m'a dit que ce livre, bah, il marcherait bien là-bas parce que tout le monde se sentirait concerné. Et après, j'étais mangé avec lui, il m'a dit exactement la même chose. Il m'a dit, la grande difficulté au Liban, c'est que vous faites partie d'une religion, d'une source ethnique quelque part, et quand vous devez voter pour les élections, si vous vous dites, tiens, je voterai bien pour quelqu'un de l'autre côté, parce qu'il me paraît plus valable pour la politique qu'on veut mener, il ne peut pas le dire, parce qu'on est forcément d'un camp, et on est presque dans un camp. Et il dit, la grande difficulté de notre pays à se construire, c'est ça. Et nous, on est là dans un monde qui se limite à des chiens, des chats, et on essaie d'amener un personnage qui est un petit peu comme ce libraire et qui dit, moi, j'ai envie de douter du côté où la balance doit forcément aller.
J'ai entendu à un moment donné une astrophysicienne il y a quelques années, j'ai oublié son nom. Mon cerveau, moi, c'est un peu du tapioca, mais bon, je ne l'utilise pas beaucoup, j'utilise autre chose. Et cette astrophysicienne-là disait quelque chose de magnifique. Elle disait que la majorité des humains sur la Terre, à chaque jour, notre tâche consiste à nous redéfinir. On est constamment en train de se redéfinir et d'essayer de voir si on correspond à l'image qu'on a de nous-mêmes, l'image qui vient des autres. Elle disait, ce qui est horrible là-dedans, c'est que si, par exemple, tu t'identifies à un groupe religieux, à une religion, tu vas toujours te définir à partir de cette religion-là. Si tu es un homme, tu vas te définir par rapport à ton sexe. Si tu es un père, etc., etc. Et elle, ce qu'elle disait, c'est ce qui est dommage là-dedans, c'est qu'on se coupe de l'expérience. Ce qui fait qu'on est l'âme humaine, l'espèce humaine est extraordinaire, elle est magnifique, et qu'il ne la fait pas rendre supérieure par rapport aux autres animaux, c'est qu'on a cette chance extraordinaire de pouvoir choisir et de pouvoir aller au-delà de nos caractères héréditaires qui sont déjà inscrits en nous. On est capable de mutation et d'évolution. Carl Sagan disait, l'humain va tellement évoluer dans 10 000 ans qu'on ne le reconnaîtra pas, mais malheureusement, on ne sera plus là pour le voir. Alors, c'est un peu ça qui nous guette aussi, c'est ce qui nous pousse à notre destruction. Ce que disait l'astrophysicienne extraordinaire, elle disait, par contre, ce qu'il faut faire pour contrer cette forme d'atrophie de notre corps, parce que ça marque, ça laisse vraiment des traces même au niveau de nos neurotransmetteurs. Elle disait, si vous ne bougez pas, vos neurotransmetteurs se fixent et vous coupez les connexions qui sont en vous. Elle disait, tout ce qu'on a à faire, et c'est un peu ce qu'en disait Henri Laborie aussi dans l'éloge de la fuite, ce qu'il faut faire, il faut être dans le rire et être dans l'expérience. En étant dans l'expérience, c'est que vous entrez dans l'autre, vous faites partie de cette grande aventure humaine, de cette grande biodiversité extraordinaire, d'une richesse extraordinaire, et vous êtes le porteur de tout ce que les autres ont en eux. Moi, je trouve ça magnifique. Ça donne pas le goût de... Ça donne le goût de mourir quand même, mais de mourir heureux.
Merci, Stéphane.
Vous verrez qu'il se dit qu'il n'est pas intellectuel, mais il en a derrière les bandelettes.
C'est pas mal. Bah, écoutez, Stéphane et Karl vont pas tarder à partir, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Moi, je vous encourage simplement à faire une grande expérience, c'est de lire ce livre. Il faudra le chercher chez vos libraires habituels, parce qu'on a tout vendu ici. Je vous conseille aussi d'aller voir l'exposition, les dessins, parce que ceux qui sont là sont déjà jolis, mais si vous n'avez pas vu les dessins originaux, ils sont quand même assez extraordinaires. C'est quand même un travail de Stéphane qui est quand même magnifique. Et je vous invite aussi à découvrir les textes de Karl qui sont quand même cette poésie en bande dessinée. C'est vrai que cet album est dans la production de ce qu'on lit, de ce qu'on voit, quelque chose, je ne vais pas dire un ovni, mais quelque chose de très original et très intelligent. Merci à tous les deux. Merci à l'éditeur de l'avoir
beaucoup.
Fait.
Merci à tous.